Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Au festival Entrevue avec la journaliste Oyku Sofoglu et le metteur en son Olivier Legras pour vous proposer une émission un peu spéciale puisque Giuseppe Di Salvatore, critique, auteur, philosophe, créateur de films Explorer.ch, vient de nous rejoindre et qu'avec lui on va revenir sur une programmation ayant toute son importance dans un festival comme Belfort qui, vous le savez, met l'accent sur les premiers films. Je veux parler de la sélection internationale court et moyen métrage. Et justement, avant de resserrer la focale sur trois de ces films, puis d'élargir la discussion critique à l'ensemble de la sélection, peut-être commencer par un premier sentiment global sur cette dernière, à forte dominante française cette année, 7 films produits par la France sur 10, auxquels il faut ajouter 2 courts-métrages américains et un chinois. Je crois, Giuseppe, que tu voulais nous en dire quelques mots comme ça.
Merci d'abord de m'inviter sur ce plateau. Oui, justement, Film Explorer et moi personnellement est très attentif au court-métrage, moyen-métrage, que je trouve vraiment une dimension d'expérimentation très souvent, mais pas seulement, par rapport au cinéma et l'occasion aussi de découvrir de nouveaux talents. Alors, c'est vrai, en arrivant ici à Belfort, à Entrevue, on est un peu surpris d'avoir une sélection. Alors, je ne sais pas combien c'est un choix curatorial ou combien c'est juste la chance de 2025, avec une majorité de productions françaises assez écrasante et avec justement deux, trois films des États-Unis, avec cette exception chinoise qui d'ailleurs, je pense, sera le sujet de notre discussion, que nous avons assez aimé. Alors, ce ne serait pas l'occasion maintenant de faire des bilans avec un programme relativement petit comme celui-là, avec une dizaine de films. On ne peut pas vraiment en dire beaucoup. C'est vrai, on pourrait dire en général que l'impression générale, c'est que on a en attention un cinéma relativement classique de narration, de paroles assez présente. Mais j'aimerais bien partir par un film que, oui, il est français en termes de production, mais il est bien plongé en Palestine, et il part de Palestine. Le réalisateur Mohamed Mespa est palestinien. Le film s'appelle Still Playing, et c'est quelque chose que, en parlant un peu avant entre nous, je pense que nous a convaincu tous et toutes. Oiku, toi aussi, a trouvé vraiment ces films très bien, non?
Oui, surtout après le génocide d'Israël systématique sur le peuple palestinien, je suis plus attentif et plus intéressé par le film tourné ou sur les Palestines, disons. Mais j'ai, à force de regarder trop de films sur ce sujet, j'ai l'impression qu'il sort une sorte d'imagerie très cliché et qui nous à peu près anesthétise par rapport à ce qui se passe en Palestine en ce moment. Et ce film, comme peut-être que tu vas t'en souvenir, il y a le parcours de l'année dernière, nous montre notre visage de la Palestine, même si le film en soi ne se passe pas en Palestine, parce que c'est en Cisjordanie, qui ne pas à Gaza, qu'on parle très souvent. Cisjordanie, c'est une autre région qui est un peu plus à l'abri du conflit armé, même si on entend le bruit de loin, c'est vraiment à la porte de leur village, donc c'est au bord de leur sac intime. Mais le film nous montre que malgré tout, on peut transcendre la violence et le transformer quelque chose de créatif, quelque chose qui nous nourrit, qui continue à la population. Parce que je pense l'accent mis sur le peuple palestinien, surtout c'est aux enfants. Les enfants sont plus attaqués, plus meurtriers par les Israéliens. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une imagerie très sombre sur l'avenir de ses enfants, et par son existence lui-même, ce film montre que il y a un avenir, il y a un avenir potentiel pour ses enfants, et c'est pour cette raison même qu'il est très très qu'il a une valeur extrêmement importante. Mais il y a aussi un côté très conscient de sa propre le cinéaste Mohamed, il est très conscient de sa propre distance par rapport au sujet, qui est un développeur développeur en français, j'espère, de jeux sur l'ordinateur, et qui qui aussi travaille sur des robots avec ses enfants. Donc c'est un sujet en tant que sujet de film, donc sujet filmé, très intéressant. Il a un côté très sombre, très mélancolique et triste dans son visage, dans ses yeux. Et comme Mohamed, il interagit de manière directe avec son protagoniste, il y a des échanges un peu remplis de distance, remplis de des espaces, des absences de mots. Et là, quand il dit à la fin, toi, tu vas rentrer après 3 mois, c'est quoi le normal? Ça me fait beaucoup, beaucoup toucher. Donc, j'ai trop parlé, Giuseppe, mais si
non,
tu veux...
as introduit vraiment beaucoup de thèmes que je trouve aussi passionnants et très central de ce film. Justement, j'ai beaucoup aimé comment, justement, ces dimensions clichés que tu dis et le fait de proposer un autre visage, une autre réalité de la Palestine centrée sous la modernité, sous la technologie, parce que justement, tu as rappelé les enfants de le protagoniste Rached Abouidef font des compétitions de robots. Mais ce qui est beau de ce film, c'est qu'il part quand même par quelque chose de très qu'on a vu malheureusement beaucoup, c'est-à-dire par les bombardements, parce que la Cisjordanie, on en parle beaucoup moins, Gaza, mais quand même, elle est aussi systématiquement bombardée et attaquée. Mais justement, il nous accompagne. C'est un film qui part presque normal, malheureusement, on pourrait dire cela, parce que on nous montre la situation en Palestine, pour après ralentir immédiatement le rythme. Et ça, ce travail sur le rythme, je le trouve assez mûr pour être un tout premier film. Rappelons-le, c'était montré à Locarno. Et c'est le premier film de Mohamed Mespa. Donc, il nous accompagne de ces images qu'on pourrait dire un peu à laquelle on est habitué, pour après ralentir le rythme et trouver une certaine normalité. Une personne qui a un travail, qui a une famille, qui essaye de vivre, et toute normalité finalement a tout de suite une connotation de résistance. Et donc, tu as déjà nommé cette pause, je pense, ou ces moments des silences, qui pour moi sont vraiment le point fort du film. Alors le film est informatif, il nous communique tout la rage d'une situation inhumaine dans laquelle ces personnes sont plongées quotidiennement. Au même temps, dans cette pause et dans ce silence, quelquefois presque trop long, on les remarque dans tous les cas, c'est le moment justement de ressentir ce qui se passe, de ressentir non seulement l'humanité de ses protagonistes, le père et deux enfants en particulier, mais de ressentir aussi qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quelquefois, dans l'action de la guerre, on pourrait oublier qu'est-ce que ça veut dire tout cela, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'humanité d'une personne, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux espoirs. Et je pense que dans ces silences, je termine là-dessus, j'ai trouvé très fort, il fallait ces silences pour sentir quelque chose d'énorme et vraiment qui donne le frisson quand le Rachid nous dit « je peur d'aimer finalement », il nous dit « je peur de m'attacher » parce qu'il vient d'avoir un troisième enfant tout petit et il a pris des mois pour accepter d'aimer, de faire rentrer dans ses émotions, dans son affection, ses petits enfants, parce que cette peur évidemment est la peur après de se retrouver avec un enfant perdu.
Tu parles de moment de silence, mais parce que c'est un mot qui est exprimé justement dans le film, parce que quand on parle de distance, c'est aussi il y a des moments où on voit les jeux vidéo produits par Rachid regardés par des créatures de YouTube qui se concentrent plutôt sur les jeux vidéo, qui jouent le jeu et qui commentent là-dessus. Entre l'un, il y a 3 youtubeurs qui parlent et ils sont par leur distance discursif et politique par rapport au jeu tellement déstabilisant quand on regarde, parce que l'un d'entre eux sait que c'est créé par un développeur palestinien. Mais à la fin, il dit, après, à la fin du jeu qui est assez, disons, sombre, il dit. faisons un moment de silence pour les âmes perdues et après il boit de son boisson. Donc cette distance, cet écart entre la tonalité de nos expériences en tant que spectateurs et ce que Rachid vit là-bas est aussi un point qui m'a beaucoup, beaucoup frappé et marqué.
Oui, absolument. Et je trouve c'est une façon aussi de jouer sous une certaine ambiguïté du jeu vidéo, une ambiguïté de... Parce qu'on le sait bien, aujourd'hui, ce type de guerre, on le fait un petit peu comme du jeu vidéo. Il y a les personnes qui guident les drones qui vont tuer des populations entières. Bah, c'est derrière un écran qui font tout cela. Donc, je pense que le choix de ce développeur, non seulement pour sa force humaine est très forte, mais aussi parce que... On sent aussi que lui-même se pose des questions. Qu'est-ce que c'est cette virtualité de la violence, souvent quelque chose qui passe souvent dans les jeux vidéo, et en même temps, lui, il se l'approprie pour la détourner, pour faire une expérience, justement, l'expérience traumatique du peuple palestinien. Et c'est très intéressant, c'est très jeune. La reaction video, c'est quelque chose d'aussi très, très répandu chez la jeune génération. Et c'est très beau de voir, justement, comment quelque chose qu'on est habitué à faire et à voir, c'est-à-dire la violence dans les jeux vidéo, ça devient vraiment quelque chose qui touche et qui laisse bouche bée.
Alors, ce qu'on pourrait dire aussi en parlant des images, c'est que c'est un film qui réfléchit sur ce qu'on fait des images de la guerre. Parce que dans le film est intégré des moments où on voit effectivement des images de massacres qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parmi le tout venant qu'on connaît de ces plateformes. On voit aussi des images beaucoup plus légères, beaucoup plus... Voilà. Et je dirais là, il y a une utilisation un peu fallacieuse. Et au contraire, il y a une utilisation presque... Ou un rapport en tout cas presque réparateur des images lorsque un créateur de jeux vidéo, mais qui est aussi un artiste, on fait quelque chose de poétique. Et je trouve que la cohabitation de ces deux registres d'images dans le film dit quelque chose de fort par rapport à cette idée d'image de la guerre.
Mais c'est une véritable prise de conscience, dans le sens qu'il nous accompagne vraiment pas dans ce monde qui pourrait être celui du jeu vidéo de la virtualité, par une véritable prise de conscience cinématographique, tout en disant hein, c'est un film, point de vue esthétique, point de vue image, assez simple, assez traditionnel. Il n'y a pas de grande expérimentation avec la photographie et tout cela. Donc c'est un film assez modeste de ce point de vue, mais justement pour cela, je pense, de grande efficacité. Je ne sais pas si tu es d'accord, je resterai encore dans les Moyen-Orient.
Justement, quand on parle de la poésie de création, la poésie de... Je pense qu'on peut peut-être parler de poésie de deuil, de still playing, qui est aussi présent dans Cairo Street, c'était Abdellah Taïa, donc, qui est un cinéaste, qui est un écrivain égyptien, qui est aussi se lancé dans le cinéma. Donc, on peut parler aussi d'une sorte de poésie et dont le point de départ est la perte de quelqu'un et la recherche à travers les images de quelqu'un. Je ne sais pas si tu veux rebondir un peu sur cette quête à travers les images.
Absolument. Alors d'abord, rappelons-le, aussi un film passé à Locarno, aussi un
Exactement.
Film produit en France, mais aussi un film complètement plongé ailleurs. On est en Égypte, on est à Cairo. Alors, c'est un film particulier qui se présente comme un sort de ready-made. Non, on retrouve, on a l'impression qu'il retrouve, en tout cas, il nous présente des images de 2007. Donc, le film passe complètement en 2007. C'est des images, une petite vidéocaméra. Et justement, c'est un film que, je dirais, ne veut juste montrer une situation du quotidien, tout simplement, avec une attention aussi à l'autoréflexion, parce qu'on voit, c'est presque ponctué le film par ces images où le réalisateur se filme devant un miroir. Donc, c'est un film assez énigmatique, je dirais, pour longtemps, où on a ces dimensions intimistes qui émergent lentement, la relation avec un amant, l'amant du réalisateur lui-même. Et après, on a l'insertion des images de Youssef Chahine, et d'ailleurs, les toutes dernières images apparemment qui étaient filmées de Youssef Chahine, qui nous a laissé il y a quelques temps. je dois dire, peut-être je serai plus en mode de questionnement que de, que de commentaire, parce que c'est un film, c'est vrai, dont je trouvais beaucoup de force émotionnelle, mais qui m'a laissé aussi un petit peu, peut-être sa force elliptique, quelquefois, pour moi, c'était presque un peu trop, dans le sens que j'avais vraiment du mal à m'accrocher, surtout à rendre compte de comment composer ces dimensions intimes ou intimistes avec une dimension qui pourrait dire tout simplement documentaire, de filmer la réalité des rues de Cairo. Et pourquoi encore cet hommage à Shaïn, qui est présent évidemment par les écrans qu'on voit dans la ville, donc c'est comme une présence cinématographique qui devient une présence urbaine, mais en même temps, tout se tient ensemble, peut-être que à la fin, ou de notre souvenir, pendant le film, j'ai eu un petit peu de difficultés.
J'entends bien, mais moi, j'ai pensé par exemple à, c'est pas du tout dans le même registre, mais les images ready-made, quand tu dis de regarder des images préexistantes et de tirer d'autres significations, ça m'a fait penser un peu à Vitasan in Gaza, donc même si c'est pas du tout le même, on n'est pas du tout dans le même registre, mais j'ai l'impression que les images ont cette capacité, cette qualité de faire surgir des mémoires, des expressions qui n'étaient pas là quand on filmait, et le regard qui passe par le temporalité ajoute un autre niveau. Donc je pense que il joue avec ça, il joue avec aussi le regard de spectateur qui vient de notre temporalité, qui est le nôtre, le temps moderne, le temps contemporain. Donc ça ajoute un niveau, je pense. Mais aussi je pense quand on, parce qu'il y a un désir de retrouver un amant qu'il est perdu ou qu'on ne sait pas trop, qu'il cherche un amant dans le passé. Mais je pense qu'il utilise cette figure pour une sorte de carte de projection pour le désir des spectateurs. Donc peut-être que Omar, c'est quelqu'un de très important pour lui, mais je pense qu'il y a, une générosité dans son désir pour que le désir de spectateur vienne habiter, pour qu'il habite aussi cet espace, cet Omar, cette figure très fugace. On le connaît pas, on sait pas qui c'est, mais c'est une figure qui nous invite à travers le désir.
Oui, je vois bien.
C'est une belle, j'étais convaincue.
Non, c'est une belle lecture, je pense, du film.
Mais je suis d'accord, pardon, je suis d'accord avec Shaïn, peut-être. Je te rejoins sur ce point.
Mais peut-être il y a quelque chose qui, dans ce film, qui me fait penser à d'autres films, d'ailleurs, dans ces sélections. C'est ces dimensions, justement, que tu dis du désir, qui revient, qui remonte à une dimension, je dirais, très spécifiquement corporelle. Pour moi, la question du corps est assez présente, d'ailleurs, est assez présente, justement, dans toute cette sélection, je dirais, est assez présente parce que même si le film apparaît assez distant au début, finalement, aussi par la matérialité peut-être du cinéma d'Antin, du cinéma d'un personnage comme il s'appelle Shaïn, on sent la physicité du réalisateur lui-même qui se pose au centre. Et je ne sais pas, moi j'avais envie de connecter tout cela à un film très très différent en termes de style, mais qui pose aussi la question du corps au centre.
Installed by a Corpse, j'imagine, ou
non, surtout Home Tour, dont vous avez parlé déjà aujourd'hui dans cette émission, de Lara Dovin, parce qu'il a aussi ces questions de corps, il a aussi ces questions de trauma. Alors c'est un langage très différent, celui de Lara Dovin, c'est un langage justement très volontariste, très artificiel, très joué. Mais seulement au début, pour moi les deux films, c'est des films qui se révèlent à la fin, comme Cairo Street aussi. Home Tour, c'est un film qui au début met en scène un peu une certaine distance théâtrale par rapport au sujet, qui est dans ces cas-là un sujet assez délicat, le sujet du viol, à travers justement un personnage un peu haut en couleur, en tous les cas très 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 particulier, qui joue aussi la tonalité de l'absurde, je dirais, pour après craquer, pour après à travers son paroxysme arriver juste à montrer sa fragilité. Et là, à la fin du film, on relie un peu les fils de ce qui a été construit pendant le film. Donc peut-être le thème du corps, je le trouve assez présent dans les deux films et dans plusieurs finalement.
Un autre que je viens de citer, c'est Assault by a Corpse aussi, je pense, ouais. Jouant un peu dans cette thématique, mais plus dans la matérialité de l'image, parce que c'est un travail, d'ailleurs, un court-métrage très court, le plus court dans la sélection, qui part aussi sur un archive familial et qu'on sent une vraie matérialité, comme si c'est les corps hantent la matière même de la pellicule. Peut-être ça rejoint plus dans Cairo Street sur la matière d'image que le sujet lui-même, comme c'était le cas pour Home Tour, qui n'est pas vraiment le sujet, qui ne sont pas similaires, mais plus sur le sentiment, la structure narrative, comme tu disais.
Absolument. Assault by a Corpse, film américain, 5 minutes de Yes Sula, justement, met en scène et réfléchit sur le corps comme fardeau, je dirais d'abord. Le corps encore noir. Et c'est intéressant que la réalisatrice Rivion a son corps à la naissance, donc à son corps de bébé, pour après revenir au présent et à une tentative de libération aussi de ce corps qui est joué un peu voilà, avec des superpositions justement, avec un travail vraiment sur la matière de la pellicule. Et comme tu dis, pour moi, c'est un entre-deux. D'un côté, ces dimensions de corporalité, c'est dans la pesanteur, dans la rouvidité, qui est aussi la réalité cinématographique de la pellicule, et en même temps ce désir de se libérer qui passe par une danse, d'ailleurs aussi comme dans Home Tour, aussi ça passe par une danse libératoire, mais qui en même temps révèle une autre dimension qui n'est pas corporelle, mais plutôt sociétale et familiale, justement, la pression en tant qu'adulte que la société lui fait par rapport à son choix de genre, parce que justement, on comprend que une personne homosexuelle, la réalisateur. Donc oui, absolument.
À ce point, un autre film qui partage aussi la même sensibilité à travers les matériaux d'image, et de narration, c'est Détective Smiley, Les Amis Perdus, mais qui ont vraiment moins de talents, peut-être. J'essaie pas de dire, je veux pas dire que le film est mauvais, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a. Je pense qu'il utilise le même élément, même dispositif, sans finalement pouvoir arriver à même réussite technique et narratif. Et surtout parce que le Détective Smiley, film français, très inspiré par le genre des investigations, utilise la pellicule pour une sorte de... Parce qu'il est beau, parce qu'il est bien, l'image est belle. Et on ne rentre pas vraiment dans la profondeur de l'image.
Moi, je resterai dans mon esprit contradiction de ces sélections très françaises, de la Palestine à l'Égypte aux États-Unis. Moi, je passerai directement en Chine. Parce que,
ok. Non, le temps passe très vite.
Non, parce que je trouve que ce thème du corps, qui est, oui, évidemment, c'est aussi dans Détective Smiley, sous lequel on pourrait certainement aussi discuter. Mais même si c'est pas si évident, je trouve que la question du corps revient aussi pour ce film chinois, Listen to the Moon, Shi Le Feng, chinoise d'ailleurs, qui a aussi fait une partie de ses études en Belgique, donc on se rapproche. Pourquoi le corps ? Il s'agit d'une histoire d'une fille qui cherche sa fortune. Jeune fille de peut-être 20 ans, je ne sais pas, qui cherche sa fortune dans une grande ville, beaucoup de grandes villes chinoises. Ville d'ailleurs qui est si présente justement par son dimension un peu, je dirais, classique, chaotique, beaucoup de lumière, images de nuit, justement avec des lumières, etc. Donc une image de la Chine... pas nécessairement critique, sauf que pour la difficulté de trouver travail, etc., de trouver sa position. Cela dit, ces filles, on découvre relativement vite, pas tout de suite, qu'elle est sourde, elle a des problèmes aux oreilles, pas complètement, elle a
un appareil auditif, je pense.
Elle a un instrument avec lequel elle peut rentrer et sortir un peu de la réalité, Et c'est rentrer et sortir, c'est quelque chose que le film, la réalisatrice a réussi à faire très bien aussi en termes cinématographiques, parce qu'on a aussi on rentre et on sort par rapport au son de la ville, par rapport au son aussi en première personne de la protagoniste. Et ça, pour moi, ça donnait à ce film une alternance de action et contemplation qui lui donne tout son rythme et toute sa force, parce que le film est à un rythme très, 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 très fort. Elle suit un peu le rythme de la ville, de la grande ville. Mais en même temps, on a des moments, quelquefois chez elle, à la maison, ou dans d'autres moments, où des moments de réplique, qui finalement, c'est des moments assez poétiques, où elle trouve peut-être sa libération, où ses rêves trouvent leur espace.
Aussi un niveau de changement d'échelle et dans ce monde, c'est aussi passe par le costume qu'elle met, parce que ça, c'est aussi une couche de réalité qu'elle doit changer chaque jour en mettant de nouveaux costumes, que ce soit de Sailor Moon ou que ce soit de, je pense que c'était Pikachu, je me souviens pas, mais, donc elle, ça c'est aussi son petit travail qu'elle fait, mais elle a d'autres aspirations. Elle veut devenir de designer de l'intérieur, mais à cause de ce problème, on en prend avec son appel téléphonique avec sa mère que les entreprises ne le prennent pas parce que voilà, elle est comme ça. Donc il y a un effort dans sa réalité pour arriver ailleurs. Mais ce qui m'a vraiment impressionné dans ce film, c'est un court-métrage et c'est tellement difficile à construire un monde dans lequel on est immergé dans la réalité d'un protagoniste, d'un personnage. C'est pour moi, en tant que spectatrice, j'ai tellement du mal à vous regarder certains films parce qu'ils n'arrivent pas à le faire. Mais pour moi, Listen to the Moon, c'est comme un long métrage. C'est tellement immersif au terme narratif. On n'a même pas besoin que le film arrive à un point précis dans son récit. L'important, c'est qu'on est là, on partage momentanément sa réalité de ce personnage qui, quelque part, existe en dehors de notre propre expérience filmique. Je pense que le réussite du personnage, c'est qu'elle a réussi à faire exister sa protagoniste.
Je suis totalement d'accord et je me demande si finalement c'est vraiment un petit peu l'absence de mots qui nous permet cette immersion. Justement, contrairement à un certain cinéma narratif qui est un cinéma de parole, là le parti pris d'un personnage qui ne parle pas vraiment ou par signe, justement nous plonge directement dans la physicité, le corps, la question du corps évidemment, mais dans la physicité de ce personnage, donc l'immersion. Bon, après j'ajouterais, parce que je suis totalement d'accord que l'effet, c'est l'effet d'un long métrage, dans tous les cas d'un film accompli, pas d'un petit film qui regarde à d'autres types de réalisations. La réussite, c'est aussi parce que c'est un film complexe. C'est un film qui réussit à exprimer une atmosphère très spécifique, très physique, autour de ces personnages très bien joués d'ailleurs. En même temps, c'est un film qui réussit à parler de la famille, de la société, de la situation du travail, tout en restant aussi un film qui parle d'une personne individuelle, en tant que spécifiquement individuelle. Donc, je pense que c'est un film tout simplement mûr. C'est quelqu'un qui a réussi à mettre ensemble la complexité de très différents niveaux de lecture qu'on pourrait donner nous en tant que spectateurs, spectatrices, et en même temps, justement, avoir cette plongée qui est une plongée esthétique, physique.
Une dimension qui saute aux yeux dans cette sélection, c'est aussi une sorte de syndrome de court-métrage qui, à travers l'image même du film, dit que moi, j'ai fait un court-métrage. Parce que quand il y a une sorte de contexte qui est très nu et qui est un peu... Parce que ces personnages évoluent dans une sorte d'atmosphère réaliste qui dépasse le cadre du film. Alors que quand il y a un court-métrage, souvent, on est très serré dans une réalité, un appartement très vide, une sorte de slice of life, une sorte de vignette où on n'arrive pas à imaginer en dehors de ce que peut arriver à ces personnes, parce qu'ils sont cernés dans les réalités du court-métrage. Alors que je pense, elle, la cinéaste, imagine dès le départ que cette personne existe en dehors de son univers discursif, son univers esthétique. Donc, c'est pour ça que le réalisme fonctionne. Alors que je pense que tous les films narratifs dans la sélection, ils partent d'une prémisse, un concept. Ce sont des œuvres conceptuelles plus qui prétendent être narratifs. Donc, c'est part des prémisses, des hypothèses ou des concepts qu'ils essayent de prouver ou aborder à travers des histoires. C'est pas pour parler de personnages, mais plus à parler de concepts. Je sais pas si tu...
J'entends ce que tu dis, peut-être. Je reformulerai par ces distinctions qui pourrait être la distinction entre expression et vouloir dire. Mm. Pour moi, ce qui souvent ne marche pas dans les films en général, mais les courts-métrages encore plus, peut-être, parce que quelquefois on a peu de temps dans les courts-métrages, donc on veut dire plus, on veut faire passer un message. Alors c'est clair, un film veut toujours quelque chose, mais tout l'art, c'est de ne pas montrer qu'on veut dire. Donc je pense que quelquefois, et on a certaines fois dans le cinéma narratif, la tendance à ne pas réussir à cacher le fait de vouloir dire quelque chose. Et tandis que je pense que dans un film comme Listen to the Moon, on est dans une dimension expressive, on a la sensation que le cinéma que nous regardons à l'écran, c'est un cinéma qui vient des viscères. C'est un cinéma qui vient vraiment d'une urgence, une urgence d'expression, et pas justement une idée qu'on veut faire passer. Et peut-être ça, voilà, c'est quelque chose qui me fait penser à, voilà, peut-être à la force de ces films sur lesquels on a discuté finalement, que c'est les trois, je dirais, Listen to the Moon, Cairo Street, Still Playing, mais aussi justement des références à Home Tour et à Soul Bank.
Honorable mentions.
oui, voilà, qui vraiment nous apporte un vrai cinéma malgré la courte forme.
Eh ben merci beaucoup, Giuseppe Oikou, de nous avoir apporté vos regards et vos réflexions sur cette programmation. C'est la fin de cette journée d'interview et de plateau radio à Fluxfort. Et on se retrouve demain.
À demain. Merci
à
beaucoup.
Demain.
Merci.
Fluxfort.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.